Jérusalem au Moyen Âge, c'est le thème de la conférence de Béatrice Leroy, professeure d'histoire et spécialiste de l'histoire médiévale. Cette conférence a été enregistrée au Centre municipal de réunion de Bayonne le vendredi 11 février lors de l'Université du temps libre de Bayonne. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie de cette conférence de Béatrice Leroy, Jérusalem au Moyen Âge.
J'ai proposé en effet Jérusalem tout au long du Moyen-Âge, Jérusalem au Moyen-Âge. Je commence tout de suite par une phrase de Yehuda Lévi, qui était sans doute de Tudela, donc au sud de la Navarre. Au début du XIIe siècle, il a prononcé cette phrase qui reste désormais dans toute la littérature et dans tout l'esprit des Juifs en général, bien sûr, mais de l'ensemble des Occidentaux. Nous vivons en Occident, mais notre cœur est à Jérusalem. 12e siècle, Yehuda Lévi, probablement de Tudela. Cette phrase, d'ailleurs, est reprise pratiquement au 20e siècle, tout au moins l'esprit lui-même, par Shmuel Agnon, qui avait reçu le prix Nobel de littérature en 1966. Voici ce qu'il dit. « Je suis né dans une de ces villes de l'exil, issue de la catastrophe historique au cours de laquelle Titus, le gouverneur romain, détruisit la ville de Jérusalem et exila Israël de son pays. Mais, en tout temps et depuis toujours, je me suis toujours imaginé comme si j'étais né à Jérusalem. » Voilà donc cette longue tradition, cette appartenance fondamentale chez les Juifs, en général les Juifs du monde, vivre à Jérusalem, mourir peut-être à Jérusalem, être enterré à Jérusalem pour tous ceux qui le peuvent, mais surtout, au long de leur existence, cette appartenance spirituel à Jérusalem. Nous allons voir qu'il en est de même pour les chrétiens et qu'à partir du 7e siècle, il va également en être de même pour les musulmans. Donc, ville qui est la cité fondamentale pour les trois religions monothéistes, la religion du judaïsme, la religion du christianisme, la religion de l'islam, avec ses fondements tout à fait remarquables, et ceci assis sur de très grands édifices. D'abord et avant tout, depuis l'époque biblique, depuis le 10e siècle avant notre ère, 10 avant notre ère, les rois David et Salomon, son fils, qui font édifier pour Yahvé, leur Dieu, le temple où se célèbrent les cérémonies. Le temple, vous avez donc les plans en carte, plans de la première croisade, bien sûr, mais par la suite, au moment, au XIIe et au XIIIe siècle, de la domination franque de la ville elle-même de Jérusalem. Donc, le temple de Salomon, l'esplanade du temple, l'édification d'un énorme édifice avec des marches qui servaient au sacrifice des divers animaux avant d'entrer dans le temple et donc un immense mur de soutènement qui marque toujours l'emplacement de ce temple. Mais lui-même, ce mur portait cet édifice qui était le temple. Le temple, donc, qui est fondamental pour le monde du judaïsme et quelques autres édifices dans la ville. Je pense au tombeau de Rachel, par exemple, et puis donc quelques sites ainsi. Mais le Christ, pour le christianisme maintenant, le Christ Jésus-Christ a vécu en partie à Jérusalem. Bon, né à Bethléem, qui aujourd'hui est à 8 km seulement de Jérusalem, à pied en 1 heure ou 2 heures, quelques minutes en voiture, quand c'est possible, quand il n'y a pas de frontière à traverser, mais en tout cas 8 km seulement dans la numérotation actuelle. Voilà, donc Bethléem. Puis il a vécu à Nazareth, qui est dans le nord de l'État d'Israël actuellement, donc dans la région du nord, dans la Galilée. Et c'est ainsi qu'en Judée et en Galilée se trouvent donc les traces de la vie du Christ. Le Christ qui a souffert sa passion dans Jérusalem, après quelques très grands temps de sa vie, il faudrait suivre évidemment les évangiles, donc les espaces fondamentaux pour le christianisme, et surtout la passion. Et c'est là qu'il souffre sur la colline du Golgotha, moment où il est crucifié, et tout de suite, ou pratiquement tout de suite, dès qu'ils le peuvent, les premiers disciples avec Nicodème, Joseph d'Arimathie, et les premiers temps, les tout premiers temps donc de cette diffusion du christianisme, s'occupent de ménager son Saint-Sépulcre pour une édification et pour une vénération. La période du temple pour le judaïsme, la période des sites de la vie et de la passion du Christ pour le christianisme, je vais y revenir, et nous allons voir qu'il y a d'autres sites évidemment. Et puis au 7e siècle, la ville de Jérusalem, je vais revenir sur les grandes dates de prise, de destruction, etc. Mais citons les grands religions monothéistes d'abord. Au 7e siècle, parmi les premiers disciples qui suivent Mahomet, qui lui-même meurt en 632, donc dès les années 635-640, les premiers califes, Ali d'abord et puis surtout Omar, prennent par la guerre et par la force la ville de Jérusalem, démolissent définitivement le temple, ménagent le Haram al-Sharif que vous avez sur vos guides, le site sacré et le site donc de vénération sacrée. Et c'est ainsi que cette esplanade devient l'esplanade des mosquées, transforme les premiers lieux de culte chrétiens en centre de l'islam, désormais à la place de la basilique du mont Moria, où Abraham avait cru qu'il devait sacrifier son fils Isaac, donc sur le mont Moria, ce qui devient désormais le dôme du rocher et la mosquée de Omar, qui d'ailleurs est construite par son successeur, peu importe, c'est le nom que l'on lui donne. Au côté opposé, à côté d'un premier sanctuaire chrétien et d'un lieu réputé biblique, les musulmans édifient une autre très vaste mosquée, la mosquée Al-Aqsa, qui veut dire la lointaine. Elle est loin, un peu loin, donc au bout de l'esplanade du temple ou du rocher ou des mosquées. Donc elle est assez loin de la mosquée d'Omar. Donc c'est alors que Jérusalem, qui avait un nom biblique, Yerushalayim, la vision de la paix céleste, pas n'importe quelle paix, de la paix, de l'accomplissement dans la paix divine, voilà. Puis Jérusalem, donc au temps du Christ, la ville de Jérusalem devient pour les musulmans Al-Quds, la sainte, et la ville devient la troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine, voilà, pour se situer donc les grandes dates, les grands temps de cette installation des trois religions monothéistes. Ceci ne s'est pas fait sans démolition et sans difficulté. Démolition du temple démolition du premier temple, démolition du deuxième temple, le temple donc du judaïsme, qui est démoli après des difficultés de jeunesse, mais enfin sur lesquelles je passe assez vite. Donc en 70, au moment de l'occupation romaine, car cet extrême fond de la Méditerranée qui conduit vers les régions de la Mésopotamie, de la mer Noire, de Golfe d'Aqaba, etc. Donc cette région est très très demandée par toutes les puissances politiques, et il se trouve qu'après les Grecs qui ont essuyé des résistances, en particulier les Maccabées et les Asmonéens, bon peu importe, voilà, les Romains prennent tout ce qui deviendra plus tard Israël, et Jérusalem s'y installe, et Titus, après une première révolte, fait démolir le premier temple donc, qui était là, et le remplace par des sanctuaires païens, donc première démolition. Mais ce temple lui-même est très vite remplacé par un second temple dès la fin du 1er siècle, d'autant plus que l'on cherche toujours donc à célébrer le lieu de la mort et de l'ensevelissement du Christ. On commence à en parler le long du 1er siècle donc de notre ère, après le Christ, et c'est ainsi qu'un second temple est édifié, mais révolte sur révolte contre cette occupation romaine, en particulier la révolte de Bar Kochba, et c'est ainsi que le second temple est donc démoli. D'ailleurs le troisième temple, mais enfin peu importe, il y avait eu une première démolition au temps du roi Cyrus, de Nabucodonosor et du roi Cyrus qu'il avait fait reconstruire. Donc voilà, encore une démolition et encore une reconstruction, mais cette fois-ci de façon très, très menue, en grande difficulté, et on ne parle plus du temple proprement dit, il n'en reste que le mur, et les voûtes derrière le mur, les voûtes qui vont servir, on va le voir, d'écurie, de soutènement de ce qui fut le temple, mais le temple lui-même a donc disparu après ces diverses révoltes et tout cela. Voilà la situation et l'appétit des uns et des autres pour prendre, s'installer, toujours au même site, toujours à côté, toujours sur les lieux. Et Adrien, l'empereur Adrien, après une révolte, là encore, qui fut dans les années 130, 135, 140, une époque de très graves difficultés contre son gouvernement, fait démolir complètement tous les sites de la Jérusalem antique, et il fait même démolir la basilique du Saint-Sépulcre, qui jusqu'alors n'avait pas été touchée, ou pratiquement pas. On ne s'occupait que du temple, et le Saint-Sépulcre du Christ, c'est lui qui le fait démolir. Donc, un culte qui est donné un petit peu en l'air, qui perdure tout de même, le maintien d'une très faible communauté de juifs, de chrétiens quand ils le peuvent, qui vont un peu à tâtons sans trop savoir où ils sont. Finalement, et c'est ainsi que l'époque antique se termine sur cette époque glorieuse, finalement l'empereur Constantin au IVe siècle, qui prend le gouvernement en 316 et qui va le garder donc jusqu'au milieu de ce IVe siècle. Constantin qui réunit le concile de Nicée, qui fait structurer les grandes normes du christianisme. Constantin avec sa mère, Sainte Hélène, entreprennent tous les deux la redécouverte, les fouilles archéologiques, prenons ces termes-là, tout au moins l'essai d'identification, sous d'autres dalles, sous d'autres couvertures, sous des voies de passage, l'essai d'identification, et ils y arrivent, ils retrouvent les dalles fondamentales du tombeau du Christ. C'est alors que Constantin et Sainte-Hélène font édifier la basilique du Saint-Sépulcre, telle qu'on va la vénérer désormais. Il y aura certes des démolitions, des difficultés, des reprises archéologiques, des reconstructions selon les modes architecturales des divers siècles, mais on peut dire que, si vous voulez, l'Antiquité se termine ou le Moyen-Âge commence, mais c'est très artificiel de scinder ainsi les époques, donc n'employons pas les termes de Antiquité et Moyen-Âge. Voilà, reconstruction du Saint-Sépulcre. Et avec Sainte-Hélène, il trouve sous le Saint-Sépulcre un tombeau qui est chargé de miracles, parce que les morts que l'on met sur ce tombeau ressuscitent tout d'un coup, en disant donc c'est quelqu'un là aussi qui est enterré. C'est le tombeau d'Adam qui est toujours représenté et toujours vénéré. On y croit, il suffit d'y croire. Donc dans ce monde sous le Saint-Sépulcre du Christ, voilà, et le Christ lui-même est ressuscité. Donc c'est un tombeau vide que l'on vénère de façon remarquable, alors que d'habitude, lorsque l'on va en pèlerinage, on va sur des lieux qui ont des ossements ou des peaux des saints qui se trouvent là. Il faut toucher, il faut tâter les os, les peaux, etc., ou la pierre qui les recouvre. On a pris contact avec le saint. Là, à Jérusalem, le seul lieu de tout le monde entier où on touche un tombeau vide qui est le symbole de la résurrection des chrétiens, d'autant plus chargé de sainteté qu'il est vide parce que le Christ est ressuscité et que donc celui qui se trouve là est d'autant plus chargé de sainteté parce qu'il a participé ainsi à cette résurrection chrétienne pour la vénération qu'il porte désormais en lui. C'est alors que toute cette époque médiévale est une suite, là encore, de conquêtes, de reprises. Jérusalem est une ville à délivrer et à libérer et à garder. Puis c'est une ville à gouverner, car une royauté s'y installe, puis un gouvernement. Et enfin, c'est une ville qu'il faut constamment vénérer et aller en pèlerinage pour la rencontre fondamentale qui est donc ce remarquable tombeau vide et les autres tout autour. Une ville à libérer, en effet, depuis le 7e siècle, depuis donc 632, 640, les gouverneurs, les divers gouvernements sont affrontés à des insurrections, à des démolitions, à des reprises, à des allées et venues qui peuvent être là encore rappelées. D'abord, les Perses, l'Empire perse qui vient de la Mésopotamie, donc de Tigre et de l'Euphrate, ce qui va devenir Bagdad, si vous voulez, qui est alors Babylone plutôt. C'est ainsi que les Perses prennent Jérusalem, Khosroès prend les reliques qui étaient en vénération, la vraie croix qui était là, la croix de la crucifixion du Christ. Ils prennent et ils l'emmènent en Mésopotamie, le bois, le saint bois de la sainte croix, de la vraie croix, la couronne d'épines et surtout donc Khosroès fait démolir ce qui venait d'être progressivement reconquis, reconstruit, etc. L'empereur Héraclius, qui est l'un des empereurs de Constantinople, puisque depuis Justinien au VIe siècle, c'est Constantinople qui est depuis Constantin d'ailleurs, mais surtout donc depuis Justinien qu'il a voulu ainsi, les empereurs ne sont plus fixés véritablement à Rome, mais ils tiennent Constantinople. Et c'est ainsi qu'à Constantinople, on emmagasine au fur et à mesure toutes sortes de reliques que l'on prend à Jérusalem, à Bethléem, à Nazareth, et ainsi de suite dans les lieux de la Terre Sainte biblique ou chrétienne, et que l'on les met en garde à Constantinople, qui a d'énormes remparts et qui devrait résister à tous les assauts. Donc Héraclius se donne le devoir, on l'a appelé d'ailleurs beaucoup plus tard le premier croisé. Donc il se donne le devoir de récupérer la Sainte Croix et la couronne d'épines, et en effet, il est allé jusqu'à Ctésiphone, qui est donc l'actuel Bagdad, ou à peu près l'actuel Bagdad, et c'est ainsi qu'il récupère ses saintes reliques, qu'il les réinstalle en partie à Jérusalem, en partie à Constantinople, en partie un peu partout, car c'est une époque où l'on offre les reliques, on achète les reliques, on vole les reliques, on les veut partout. Et donc, cette Sainte Croix, elle serait, disent les archéologues même avec beaucoup d'amusement, on en ferait le tour de la terre tellement il y aurait de Sainte Croix et de bois de la Sainte Croix. Mais enfin, encore une fois, il suffit d'y croire. Voilà. Donc, il se trouve ainsi. Et Héraclius est victorieux. Il permet des transferts de reliques. Sainte Radegonde de Poitiers lui a acheté une partie des reliques de la vraie croix pour les sanctuaires de Poitiers, par exemple. Exemple, mais parmi tant d'autres. Et donc, tout le monde est persuadé qu'on est désormais à l'abri. Or, Héraclius a connu en 635, en 640, l'arrivée des musulmans, la prise de la ville, la prise de Jérusalem, la transformation du site du temple et de ce qu'il en restait en une esplanade qui a toujours le mur de soutènement, mais l'esplanade qui est au-dessus, le transfert en culte de l'islam des premières basiliques du Mont Moria qui va devenir le Dôme du Rocher et surtout la mosquée d'Omar, et la grande édifie donc la mosquée Al-Aqsa pour fermer au sud l'esplanade des mosquées. Donc difficulté, voilà. Il va falloir la libérer, il va falloir y revenir. En 1009, un calife du Caire, qui est un fatimide, donc de la tendance chiite la plus intransigeante dans l'islam, Al-Hakem, le fort, donc Al-Hakem vient à Jérusalem, ravage la ville et démolit la basilique du Saint-Sépulcre. Finalement, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Il fait savoir qu'il permet la réédification du Saint-Sépulcre. Et c'est l'empereur de Constantinople, Constantin Monomaque, qui est de la fin des années 1050-1060, qui permet la réédification, grosso modo, mais une réédification tout de même, de la basilique du Saint-Sépulcre. Il avait également démoli la grande basilique de la Nativité, qui était une œuvre de Justinien à Bethléem. Il va falloir la reconstruire, selon les plans fondamentaux de l'époque de Justinien. Et il y a eu ainsi, donc, encore du travail à refaire. Donc, démolition, reconstruction, démolition, reconstruction, on est toujours là. On a pris l'habitude, depuis toujours, d'aller en pèlerinage à Jérusalem. On est protégé par des accords de temps en temps des divers sultans, des divers califes, des divers vizirs. Donc, on peut y aller de temps en temps. Il faut déjà payer beaucoup pour pouvoir y aller, mais donc on y va. Et lorsqu'on sait que en 1009, Al-Hakem démolit tout, tout un ensemble donc de chrétiens capables de se battre, capables de se déplacer dans l'ensemble de l'Occident, commencent à se grouper en pèlerinage. Le voyage à Jérusalem, que l'on va appeler le Saint Voyage, oui, mais surtout le Saint Pèlerinage, le pèlerinage fondamental, c'est toujours vécu comme un pèlerinage. C'est beaucoup plus tard, au XIIe siècle, que l'on dira croisade, à partir de la seconde croisade, donc, qui est prêchée en 1140 et qui se déroule en 1145. On parlera véritablement, officiellement, de croisade. Jusque-là, c'est le Saint Pèlerinage ou le Saint Voyage. On y va le plus possible groupé, le plus possible armé, car on sait très bien qu'on va traverser des régions tenues par l'islam, et les Égyptiens, vous voyez, peuvent démolir quand ils le veulent ce qui n'est pas gardé. Il faut donc récupérer, reprendre d'assaut, se réinstaller par la force, si c'est possible, à Jérusalem et en faire une ville ouverte dans la protection. Ouverte jusque-là, elle y était, mais à condition d'être dans la permission des musulmans, et il fallait les payer très cher, donc une ville ouverte dans tous les points de vue du terme, dans tous les sens du terme, et c'est ainsi que on pense, à partir des années 1080, après de longues années où la majorité de la noblesse surtout, qui va à cheval et qui va en armes, mais également de tous les pèlerins qui peuvent y aller à pied, qui peuvent y aller de toutes les façons, et des pèlerines, car il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes de toutes les catégories sociales qui vont en pèlerinage, donc on va à Jérusalem. Et c'est alors que les hommes de Constantinople, les empereurs de Constantinople, sont eux-mêmes vaincus par les peuplades arabes ou diverses de l'Asie centrale qui viennent jusque-là. La bataille de Manzikert, par exemple, est une horrible défaite de l'empereur romain Diogène, 1071. On sait qu'on a besoin des Occidentaux pour aider les puissances qui gouvernent en Orient et qui devraient gouverner à Jérusalem, alors que Jérusalem est une ville tantôt sunnite, tantôt chiite, jamais chrétienne à part entière, donc ni juive à part entière, sauf si on paie, sauf si on les accepte, il faut libérer et réouvrir donc cet accès au lieu saint, au lieu biblique et au lieu chrétien. D'ailleurs, des communautés chrétiennes, depuis les premiers temps de l'Église, tiennent des lieux de culte, se sont installés également nombreux dans la ville de Jérusalem. Il y a déjà alors beaucoup d'Arméniens qui tiennent des quartiers entiers ainsi que des lieux de culte dans la ville. Il y a aussi les divers chrétiens que l'on trouve à Jérusalem, mais également dans tout ce que l'on va appeler la Terre Sainte, des Jacobites, des Chaldéens, des Coptes, des Nestoriens qui sont plutôt en Asie, voilà, et puis les Grecs catholiques et les Grecs chrétiens orthodoxes séparés des chrétiens occidentaux depuis 1054. Donc, dans la ville de Constantinople, mais également là, il y a toutes sortes de cultes chrétiens, plus ou moins rattachés à Rome. Les Arméniens se sont rattachés aux croyances chalcédoniennes de Rome dès 1080, par exemple. Les autres vont y venir aussi peu à peu, et ils vont avoir liberté de culte. Donc, protection de tous ces cultes chrétiens, chrétiens de toute tendance, ouverture à tous les autres, appel des Constantinopolitains qui sont eux-mêmes menacés par les Orientaux. Donc il faut partir en pèlerinage armé. Le pèlerinage armé, par facilité, disons, la première croisade. Et c'est ainsi que, d'abord, une horde de braves gens, mais très indisciplinés, à l'appel de Pierre l'Ermite et de quelques autres prédicateurs, partent à pied, sans aucune préparation, jusque vers Jérusalem. À chaque fois qu'ils voient une ville, ils disent « c'est Jérusalem, on y entre et on massacre tout ». Voilà, donc ils ont complètement dévasté les villes de l'Allemagne du Sud en y passant, persuadés qu'ils étaient à Jérusalem. Ils ont tué tout sur leur passage. Ils se sont révélés une calamité que l'on pousse devant soi pour les faire passer. La croisade des pauvres gens, a-t-on dit. Oui, les voilà. Donc, mais surtout, les barons se sont groupés à l'appel du pape, Urbain II, 1095. Le pape leur a demandé aux chevaliers qui savent se battre, persuader, il faut les persuader qu'ils auront à se battre pour reconquérir la ville. D'ailleurs, on en a besoin à Constantinople au passage, contre les adversaires des empereurs, et surtout donc pour récupérer les terres de l'Anatolie, qui sont alors progressivement conquises par l'islam, et puis la ville de Jérusalem, qui est tantôt aux Égyptiens, tantôt aux Syriens, tantôt à n'importe qui, sauf à ceux qui devraient y être. Et c'est ainsi que quatre armées croisées se structurent, avec la dynastie d'Avennes, donc de l'est de l'actuelle Belgique et des régions de la Lorraine intérieure, avec Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin, qui forment une première armée, puis une armée de princes français, des Normands, avec Robert de Normandie, les princes de la famille royale française. Mais la première croisade n'est pas ouverte aux rois fondamentalement, car les rois doivent gouverner leur territoire. Ceux qui se battent à un autre service sont leurs chevaliers ou les princes territoriaux. Et c'est ainsi que les princes du nord et du nord-ouest de la France se groupent en une seconde armée. Puis, troisième armée, l'armée des comtes de Toulouse de la dynastie des Saint-Gilles, Raymond de Saint-Gilles et sa famille immédiate, l'un de ses fils. Il y va également avec sa femme, en général les femmes suivaient, et il aura un fils au cours de sa croisade qui sera baptisé avec de l'eau du Jourdain, d'où le nom d'Alphonse Jourdain, sous lequel on le connaît désormais, et qui sera son successeur à Toulouse. Voilà, donc une armée de méridionaux à laquelle se joignent quelques chevaliers espagnols, castillans surtout, galiciens, navarrais, mais surtout aragonais, bien sûr, donc surtout des castillans, qui ont leur propre croisade à réussir chez eux, où ils ont l'islam à repousser, qui se trouve dans la péninsule ibérique, et le pape leur a dit « Votre croisade est sur votre territoire et non pas à Jérusalem. » À Jérusalem, ce sont plutôt les autres qui n'ont pas d'autres musulmans à repousser, tandis qu'à Jérusalem, ils ont pris la ville à la place des chrétiens et des juifs. Voilà donc comment se structure peu à peu. Et la quatrième armée, qui est celle des Normands d'Italie du Sud, qui viennent de conquérir le royaume de Naples, d'Italie du Sud, qui sont en train de terminer la conquête de la Sicile. Et c'est ainsi que chevaliers du Sud, les Normands du Sud, voilà, repartent ainsi, Tancred et Bohémond, pour la conquête de la Terre Sainte, et ils passent par la Méditerranée. Ce qui d'ailleurs est très long, il faut compter 40 jours pour aller d'ouest en est et vice-versa, avec quelques escales bien sûr, et le voyage est très périlleux. Ce n'est pas du tout Facilité qu'ils passent par la Méditerranée, mais enfin, étant donné qu'ils ont les ports d'Italie du Sud et la Sicile, ils passent ainsi. Tandis que les autres passent plutôt par l'Europe centrale, d'autant plus que les rois de Hongrie entrent dans le christianisme à ce moment-là et leur ouvrent le libre passage tout au long de la vallée du Danube. On se retrouve à Constantinople. On conquiert, on reconquiert les territoires de l'Anatolie, la bataille de Dyrrachium, qui est une grande victoire des troupes chrétiennes et qui redonne l'Anatolie aux Constantinopolitains, donc aux hommes de Constantinople. Et c'est ainsi que les armées se structurent. Donc l'histoire de la croisade proprement dite n'est pas tellement de notre sujet. Restons plutôt à Jérusalem, mais il faut comprendre pourquoi on est venu libérer et comment et par où. En vue de Jérusalem, mais d'abord prise d'Édesse, qui est aujourd'hui la ville de Urfa, dans le sud de la Turquie, d'Asie. Donc Édesse, qui est une ville occupée par les Arméniens, et c'est ainsi que Baudouin, le frère de Godefroy de Bouillon, épouse ou enlève, peu importe, la princesse arménienne qui était à la tête de la ville et s'installe donc à Édesse. Puis les Bohémons, les Normands du Sud, s'installent à Antioche après un très long siège qui a duré un an et qui était une cité très difficile à prendre. Et au cours de ce siège, le légat du pape, qui avait été le principal prédicateur de la croisade, est mort au cours du siège, Adhémar de Monteil, l'évêque du Puy, de Puy-en-Velay. Donc, la prise d'Antioche, la prise d'Édesse, la prise d'Antioche, on descend le long de la côte, les Saint-Gilles prennent Tripoli et s'installent à Tripoli, et enfin, donc, à partir de juin-juillet, 1099, alors que la croisade s'était ébranlée en 1095, vous voyez qu'il a fallu du temps pour s'organiser et pour faire le trajet et pour venir, etc., prendre les autres, voilà. Et donc, le siège de Jérusalem, donc, pour tout au long de juin et les premiers jours de juillet 1099. Les croisés, tous les soirs, font le tour des remparts de Jérusalem. Vous avez donc le croquis, font le tour des remparts de Jérusalem pour, en chantant des cantiques, comme, croit-il, les Hébreux autrefois avaient fait le tour de Jéricho, en faisant le tour de Jéricho et en chantant jusqu'à l'effondrement des murailles de façon surnaturelle. Croient-ils vraiment qu'ils vont faire effondrer les murailles rien qu'avec leur chant? Pourquoi pas? En tout cas, l'assaut terminal, qui est surtout dirigé par Godefroy de Bouillon, mais tout le monde y participe, et c'est la prise de la ville. La prise est l'affreux massacre qui est montré du doigt par tous les historiens, surtout les historiens actuels, les historiens contemporains. Or, malheureusement, c'est la loi de la guerre. C'est la loi de la guerre qui date de l'Antiquité, qui se poursuit tout au long de l'époque médiévale et qui s'est poursuivie très longtemps après, jusque dans les époques modernes. Une ville qui résiste et qui ne capitule pas, qui est prise d'assaut, est passé complètement au fil de l'épée et tout le monde est tué. Tandis qu'une ville qui donne sa sédition, qui offre les clés à son vainqueur, qui l'a prise par négoce, par entente, selon bien sûr tel ou tel rachat, rançon à payer, etc., cette ville est préservée. Personne n'est tué. Certes, il y a des prisonniers et des départs en esclavage ou autrement, mais voilà la loi fondamentale de la vie de la guerre au moment des prises des villes, telle qu'elle est vécue ainsi. Et c'est donc le massacre de tous les musulmans et de tous les juifs, de la ville de Jérusalem qui avait été enrôlée par les musulmans et placée sur les murs au service des musulmans de la ville pour tenir donc contre l'assaut des chrétiens. Tout de suite, la nomination de responsable de la ville, et en effet, c'est une ville qu'il va falloir désormais gouverner après l'avoir libérée, un responsable qui est Godefroy de Bouillon, qui avait été, on peut dire, le principal artisan, le principal organisateur du moins, pas le principal guerrier, mais le principal organisateur de ce siège réussi donc le 15 juillet de 1099, 15 juillet, et c'est ainsi que Godefroy de Bouillon est devenu l'avoué du Saint-Sépulcre. L'avoué du Saint-Sépulcre, l'avoué car l'avoué dans le droit canon, c'est le représentant laïque des intérêts de l'Église. Or, la croisade ayant été prêchée par le pape, par Urbain II, accompagnée par le légat du pape, c'est une affaire d'Église, le saint voyage, le pèlerinage fondamental à Jérusalem. Et la prise de la ville est offerte, donc la ville délivrée est offerte à l'Église fondamentalement au pape. Et c'est l'avoué qui est le responsable laïque, donc qui doit prendre des initiatives. Beaucoup plus tard, dans les récits de la croisade, mais au XIIIe siècle, dans l'un des multiples textes écrits pour relater tout cela, on va lui prêter une jolie phrase qui est un peu sossote. « Je ne prendrai pas une couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines. » Oh, certes, l'esprit y est, mais il n'a jamais prononcé cette phrase. Voilà, c'est une phrase qu'on a attachée à Godefroy de Bouillon. Il est l'avoué du Saint-Sépulcre. Mais il meurt l'année suivante dans un combat le long de la côte. Et de toute façon, à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut un gouverneur sur place, car être aux ordres de l'Église, l'Église c'est le pape à Rome, il faut 40 jours pour envoyer un bateau, pour demander la permission, pour recevoir la réponse encore 40 jours, à la moindre initiative, il faudrait perdre 80 jours, 40 et 40, pour savoir si on peut s'armer, si on peut riposter, si on peut entrer en négociation avec tel et tel. Non, il faut un roi sur place.
Qui sera le roi de Jérusalem, vous le saurez en écoutant la seconde et dernière partie de la conférence de Béatrice Leroy, professeure d'histoire et spécialiste de l'histoire médiévale. Jérusalem au Moyen-Âge, seconde et dernière partie de cette conférence, enregistrée lors de l'Université du Temps Libre de Bayonne au Centre Municipal de Réunion à Bayonne le vendredi 11 février 2022. Seconde et dernière partie de la conférence de Béatrice Leroy, la semaine prochaine, même lieu, même jour, même heure.